Et alors, c'est l'heure de l'agenda militant qui va être un peu allongé ce soir, puisque nous avons en plateau Colline, bonsoir.
Bonsoir.
Qui fait partie du collectif Existrance, puisque nous voulons parler de la manif de samedi. Alors, c'est la 19e marche des trans intersexes et de celles et ceux qui les soutiennent. Donc, on va parler ce soir avec toi des revendications, parce que ça fait quand même 19 ans que les personnes trans et intersexes vont dans la rue et qu'on a l'impression que d'un point de vue du droit, ça n'a pas forcément beaucoup évolué. Alors peut-être que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les revendications. Alors j'ai vu que la chose qui définit les personnes en général, les personnes trans ou non, c'est les papiers d'identité. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que ça s'améliore ? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est tout simple, en fait, de changer de... Enfin, je me dis, ça pourrait être simple.
Oui, alors, au cœur de nos revendications, effectivement, il y a l'accès au changement d'état civil, donc c'est-à-dire changement du prénom et changement de la mention du sexe à l'état civil, qui conditionne la carte d'identité où ça apparaît, qui conditionne le passeport, où ça apparaît, mais qui conditionne aussi des trucs, des endroits où c'est encore plus pénible, comme la carte vitale, où on a un numéro de sécurité sociale
qui commence par un 1 ou un 2
selon la mention de sexe à l'état civil.
Un mâle, deux femelles, c'est à peu près ça.
Et en fait, qui conditionne énormément de formulaires administratifs de manière automatique et qui rend assez facilement dingue toute personne qui s'y attaque pour essayer de faire changer, par exemple, à Pôle emploi ou par exemple dans toutes sortes d'administrations ou même par rapport à ses feuilles de paye dans son entreprise. Parce qu'en fait, comme tout se fait un peu automatiquement à partir du numéro de sécu, on se retrouve avec des messieurs ou des madames qui sont parfois un peu inattendus par rapport à la vie sociale qu'on mène.
Même, je pense que pour la vie courante, des choses simples comme aller chercher un paquet à la poste, ça peut être compliqué des fois.
Par exemple, il y a plein de situations comme voyager aussi, comme voter. Alors bon, je ne sais pas si c'est si important au final. Peut-être que, je ne sais pas, il faut à tout prix voter, mais sinon, tant pis, on ne peut pas voter. Bon. C'est un vrai, ça peut être un vrai handicap dans la vie de tous les jours, et puis surtout en termes d'accès au logement, d'accès au travail. Soit parce que ça complique les situations, soit que ça les empêche complètement, soit que ça fragilise les personnes parce que, par exemple, quand on passe une frontière et qu'on a des papiers qui mentionnent un sexe masculin avec un prénom masculin, on peut avoir une peur qui est de tomber sur une personne à la sécurité de l'aéroport ou aux douanes qui ne va pas comprendre la situation ou qui va avoir envie de vous embêter, de vous empêcher de passer, qui va vous retarder. Ça, c'est vu dans des aéroports régulièrement. On lit des témoignages. Ça se passe pas bien pour X raisons. Souvent, c'est parce qu'on est tombé sur la mauvaise personne. Mais de fait, la situation est possible. Et du coup, ça nous met juste dans des situations qui fait que on peut être tenté de juste ne pas tenter l'expérience d'un tel voyage. Ou pareil pour la poste. Enfin, moi, pendant longtemps, par exemple, je sais que je cherchais même pas à aller chercher des colis ou des recommandés à la poste, donc je signais une
décharge,
une procuration, je cherchais le terme à une personne qui venait me le chercher, puis comme ça c'était réglé. Et enfin voilà.
Parce qu'aujourd'hui, pour changer d'état civil, il faut passer devant un juge.
Alors aujourd'hui, le changement d'état civil, effectivement, il faut faire une requête auprès du tribunal de grande instance, armé d'un ou d'une avocate et de beaucoup de patience. Et donc, on doit produire un certain nombre de documents qui vont justifier de notre demande, sachant qu'il n'y a pas de loi sur le changement d'état civil.
C'est donc un peu au bon vouloir.
Donc, c'est une jurisprudence qui a été durcie ces dernières années et donc où on demande, pour simplifier, des démarches irréversibles qui sont interprétées le plus souvent comme une demande de stérilisation des personnes. C'est-à-dire concrètement que à des personnes trans qui ont été assignées filles à la naissance et qui se vivent dans un genre masculin et qui souhaitent une mention de sexe M sur, à l'état civil et sur leur papier, on va leur demander une hystérectomie, donc une ablation des ovaires et de l'utérus.
Qui est quand même une opération très lourde et qui n'a aucun
Qui est une opération qui est lourde, qui est juste une mutilation, une stérilisation des personnes sans nécessairement leur consentement. Après, c'est autre chose de penser que peut-être certaines personnes voudraient accéder à une telle opération pour des raisons qui leur sont propres, de la même manière que d'ailleurs, en tant que femme, on a le droit d'accéder, même si ce n'est pas très connu, c'est peut-être l'occasion de le rappeler, mais on a le droit d'accéder à des opérations de stérilisation définitive. Après, il y a une procédure à suivre, un consentement éclairé avec un délai à respecter. Vous avez le droit, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'imposer à des personnes de manière systématique une stérilisation pour accéder à simplement la reconnaissance de leur identité sociale avec des enjeux qui sont les enjeux de l'emploi, du logement, de la précarité en premier lieu et les enjeux de la santé qui sont derrière. C'est ça les enjeux, c'est pas d'aller se promener à montrer à tout le monde sa carte en disant « Regardez, je suis une femme, monsieur, on s'en fout ». Ou pas, enfin, en tout cas on peut s'en fiche, mais la réalité c'est que dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, ça peut être terriblement handicapant.
Alors justement, puisque tu parles d'opérations médicales, dans les revendications de l'existence, il y a le libre parcours médical, en fait, c'est-à-dire que pour que tout le monde puisse choisir la façon dont il ou elle veut faire son parcours. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même excessivement cadré.
Ouais, alors c'est vrai qu'on a des gros soucis, on a des revendications un peu sur tous les fronts, et c'est un peu compliqué aussi de se donner des priorités. Je reviendrai peut-être sur le changement d'état civil, parce qu'il y a des choses à dire aussi sur qu'est-ce que nous on attend et puis qu'est-ce qui se passe en ce moment. Mais effectivement, dans le contexte médical, on a un souci principal, on va dire, qui est la psychiatrisation des transidentités. Et contrairement à ce qui a été annoncé régulièrement et que peut-être, enfin, il est possible que vous soyez tombé dessus, mais on a annoncé une dépsychiatrisation prétendue
à l'époque de Roselyne Bachelot,
exact, des transidentités, mais en réalité, il s'agissait juste d'un basculement d'une affection longue durée, donc qui est un dispositif qui permet un remboursement à 100% de certains traitements liés à une pathologie donnée. Donc, en l'occurrence, ça, c'était lié à la transidentité, et de la faire basculer d'une ALD qui était psychiatrique à une ALD dite hors liste, donc qui était sortie des ALD psychiatriques. Mais ça, c'est un dispositif uniquement de sécurité sociale et de remboursement. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'y compris à la sécurité sociale, et on a eu encore un cas cette semaine d'une personne qui disait avoir eu un refus de la part du médecin conseil de la CPAM de sa région, donc la Caisse régionale d'assurance maladie, qui refusait sous prétexte qu'un certain protocole qui n'existe pas du tout dans le droit, dans la loi, n'avait pas été respecté, notamment un suivi psychiatrique de 2 ans. Ça, c'est la réalité, y compris à la sécurité sociale, mais c'est aussi la réalité des personnes trans qui vont simplement demander à un moment donné de leur vie un traitement pour plein de raisons, mais une raison en tout cas qu'on identifie, c'est la pression sociale sur l'apparence et sur les corps qui fait que, oui, c'est vrai que c'est hyper compliqué si vous êtes dans une vie sociale en tant qu'homme ou en tant que femme et que vous avez certains caractères sexuels apparents qui vous font percevoir d'une manière ou d'une autre et qu'il faut gérer ça et que du coup cette pression sociale, bah, chacune, chacun la gère comme elle peut, comme il peut, et que y a des moments où il y a certains traitements qui vont permettre aux personnes de trouver un petit peu une respiration, un équilibre, une estime à la fois de soi face à soi et surtout de soi face aux autres, dans la reconnaissance qu'on peut obtenir aussi socialement dans une société qui est très sexiste, très normée et qui fait peser notamment sur les personnes trans, mais aussi plus largement sur les femmes, Et puis sur les corps et les identités et les comportements sociaux de tout le monde, ben, un poids de, à la fois de normes et d'ailleurs de hiérarchie, de domination des uns sur les autres, n'est-ce pas ? Devinez qui sont les autres.
Alors, tout à l'heure, on parlait, c'est une marche pour les personnes trans et aussi les personnes intersexuées. Alors, aujourd'hui, dans la presse, on parlait de ce qui s'est passé à Tours, où un tribunal a autorisé, ou en tout cas, il y a eu un premier jugement où une personne a obtenu un sexe neutre. Est-ce que c'est quelque chose... est-ce que déjà, les revendications des personnes trans et des revendications des personnes intersexuées sont à peu près les mêmes ? Et est-ce que le sexe neutre vous semble quelque chose...
Ouais. Donc, effectivement, l'existence, depuis un certain nombre d'années, regroupe à la fois des enjeux, des revendications trans et aussi des revendications venues du mouvement intersexe. Et donc, c'est un collectif mélangé avec des personnes venues de ces deux mouvements qui ont beaucoup d'affinités, beaucoup de combats en commun, avec des spécificités. Alors, sur le mouvement intersexe, leur principale, vraiment très forte revendication aujourd'hui, c'est vraiment la question des mutilations qu'on fait subir aux enfants en bas âge, souvent juste après la naissance, quand on considère que leur apparence génitale n'est pas conforme à ce que devrait être un sexe mâle ou un sexe femelle, et qu'à partir de là, on va essayer de le normaliser d'un côté ou de l'autre. Alors très souvent, ça va être plutôt pour en faire des corps femelles, et y compris, enfin, c'est vraiment terrible, parce qu'en fait, on mutile les corps de ces enfants sans leur consentement, en obtenant plus ou moins le consentement des parents, mais en les embrouillant pour plein de mauvaises raisons. Et puis, ces enfants, en grandissant, ils se retrouvent avec un corps qui est mutilé. Souvent, ils doivent resubir d'autres opérations par la suite. Probablement qu'ils vont perdre en sensation. Et puis, peu importe le résultat, de fait, on leur fait subir, en tout cas, des modifications importantes au niveau génital qui ne sont pas consenties. Et un certain nombre d'adultes, aujourd'hui, dans le mouvement intersexe, on réussit à faire émerger vraiment cet enjeu-là qui est terrible et qui est toujours une pratique courante en France notamment. On opère des enfants à la naissance ou dans leurs plus jeunes années pour en faire des corps normés, femelles ou mâles. Donc ça, c'est le cadre, c'est la base vraiment des revendications et il faut que ça s'arrête. Mais ça rejoint exactement les revendications du mouvement trans sur le consentement à tel ou tel traitement. C'est-à-dire qu'on n'a pas à forcer les personnes à subir tel ou tel traitement pour X raisons, pour coller au M ou au F de l'état civil. C'est juste pas acceptable, c'est pas possible humainement, c'est pas possible. Ensuite, à partir de là, effectivement, ben, y a des revendications sur la mention de sexe. Est-ce que c'est pertinent ? Notamment les personnes intersexes, mais pas seulement elles, soulignent que ben, la mention de sexe, c'est compliqué. Elles réclament dans un premier temps de pouvoir basculer d'une mention à une autre si on ne se reconnaît pas dans celle qui nous a été assignée à la naissance. Mais plus largement, peut se poser la question, effectivement. Alors, peut-être pas d'un sexe neutre, en tout cas, c'est pas une position qui est portée par l'existence, mais peut-être plus naturellement, plutôt que rajouter des cases et avec des enjeux derrière un peu compliqués en termes de stigmatisation, en termes de ce que ça peut produire comme nouvelle discrimination, ce qui paraîtait peut-être plus logique, c'est de supprimer cette mention d'un point de vue administratif et juridique, ce qui n'empêche aucunement les personnes de se positionner derrière en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que non-binaire, en tant que tout ce qu'on veut, en tant que lesbienne, si on considère que c'est une identité qui dépasse celle de femme. Peu importe, mais est-ce que ça a besoin d'être marqué sur les papiers ? Peut-être pas. Alors, c'est quelque chose qui fait son chemin, qu'on entend dans certaines associations, dans le collectif. C'est des questions qu'on se pose. Et on voit effectivement, c'est intéressant de voir que dans des tribunaux, ça émerge et qu'à un moment donné, à partir de la demande de cette personne, on estime que, de fait, il n'y a rien qui justifie de l'assigner à un sexe ou à un autre. Ce n'est pas d'ailleurs de l'assigner à un sexe neutre qui a été demandé, c'est ce qui a été dit, c'est rien ne permet de l'assigner à un sexe F ou à un sexe M. Donc, le résultat, c'est qu'on l'assigne à rien du tout. Ça rejoint un peu ce que je disais, c'est-à-dire que après, la question, c'est si c'est valable pour une personne, autant le faire pour tout le monde. Et après, peu importe comment les gens se définissent.
Oui, effectivement, ça pourrait être toute la population, parce que dans l'absolu, c'est vrai que ce F ou M sur les papiers est complètement aberrant.
Voilà. Mais pour l'instant, la première étape, est-ce qu'il fait consensus au sein du mouvement trans de manière assez large, c'est la demande d'un changement d'état civil libre et gratuit pour pouvoir basculer d'une mention de sexe à une autre au moment où on a besoin, pour toutes les personnes qui en ont besoin, et vraiment pour des raisons qui sont purement sociales, c'est-à-dire accès au logement, accès au travail, je répète, mais c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête.
C'est aussi pour éviter la fragilisation, parce que finalement, si on n'a pas de papier pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est quand même terrible.
Oui, c'est ça. Mais c'est ce que je veux surtout, c'est sur quoi je veux surtout insister, c'est que ce sont d'abord, avant tout, des enjeux sociaux et de chances de vie, de santé, d'accès au logement, d'accès au travail. Et c'est pas des enjeux philosophiques sur je suis féministe, tu es féministe, nous sommes féministes, et c'est bien. Mais c'est pas l'enjeu principal. L'enjeu, c'est pas un enjeu philosophique, politique, qui nous dépasse. Cet enjeu, il existe, il nous accompagne, c'est un outil aussi. Mais l'enjeu, c'est des enjeux de vie concrets, tout de suite, maintenant, des enjeux de vie et de survie même.
Et par ailleurs, il y a des pays qui ont fait quand même des législations plus tolérantes, et c'est des législations qui peuvent, ça coûte rien, c'est quand même simple.
Alors voilà, c'est un peu le mot d'ordre qu'on a retenu.
Après, ça coûte rien, c'est pas du tout une revendication, mais c'est des choses simples.
Alors c'est le mot d'ordre qu'on a retenu cette année, c'est le monde avance, la France recule, et de fait, effectivement, depuis 2012, où notamment en Argentine, on a vu une loi sur l'identité de genre qui a été votée et qui instaurait une procédure de changement d'état civil accessible à toute personne qui en faisait la demande sur simple déclaration. Et puis un certain nombre d'autres pays ont suivi, des recommandations au niveau international ont suivi, au niveau de l'ONU, l'OMS, au niveau de l'Europe, des différents niveaux politiques de l'Europe. Au niveau aussi français, la commission consultative des droits de l'homme, etc., le défenseur des droits. Enfin, il y a énormément de recommandations qui vont dans le sens d'une procédure de changement d'état civil libre et gratuite. Sauf que, de fait, ça fait des années qu'on n'avance pas. Et comme je disais tout à l'heure, on est plutôt même sur un repli depuis 2-3 ans. Il y a eu des jurisprudences qui se sont installées par la Cour de cassation. Ça fonctionne comme ça, les jurisprudences, qui font que ça s'est plutôt durci sur les conditions demandées pour accéder dans les tribunaux au changement d'état civil.
Donc c'est pour cela qu'il faut aller dans la rue ce samedi. Donc c'est à quelle heure la manif ?
Alors départ à 14h, métro Stalingrad.
Et donc, c'est 14h à Stalingrad. Et j'imagine qu'on peut avoir toutes les revendications sur votre site internet, qui doit être existrans.org.
Exactement, existrans.org. Il y a une page Facebook. Et puis, c'est important, en tout cas, de partager vraiment ces revendications largement, de venir aussi en nombre faire masse avec les personnes trans et intersexes, autour de nos revendications pour aussi montrer... bien sûr, c'est une marche de visibilité aussi, avant tout, et depuis sa création. C'est pas juste une marche de revendication. C'est aussi dire, on est là, on existe. Mais c'est important de montrer qu'il y a des alliés, qu'il y a du soutien, qu'il y a de la place. Vous serez un peu en retrait si vous n'êtes pas des personnes trans ou intersexes.
On sera là. Hein,
mais en soutien, pour montrer que voilà, il y a un enjeu de droit. Et c'est, effectivement, c'est simple, ça coûte rien. C'est de bon sens, il faut y aller.
En tout cas, nous, on sera là. Merci beaucoup, en tout cas.